Sonobook présente, avec l'autorisation de The Estate of Theodore Sturgeon et les éditions J'ai lu pour la traduction française, Les plus qu'humains de Theodore Sturgeon. Lu par Frédéric Knepp. À sa gestaltitude, Nicolas Samstag. Chapitre 1. L'idiot de la fable. L'idiot habitait un univers noir et gris, que ponctuait l'éclair blanc de la faim et le coup de fouet de la peur. Ses vieux habits en lambeaux laissaient voir ses tibias en lames de burin et sous sa veste déchirée ses côtes qui saillaient comme des doigts. L'idiot était de haute taille, mais plat comme une limande. Dans son visage mort, ses yeux étaient calmes. Les hommes le fuyaient, les femmes l'ignoraient, les enfants s'arrêtaient pour le regarder. Mais ça ne paraissait pas l'atteindre. L'idiot n'attendait rien de personne. Quand l'éclair blanc frappait, il mangeait comme il pouvait, s'il pouvait. Et il lui arrivait de sauter un repas. Mais en général, les uns ou les autres pourvoyaient à sa subsistance. Pourquoi, il n'en savait rien et ne se posait jamais la question. Simplement, il était là et il attendait. Non, il ne mendiait pas. Si le regard de quelqu'un croisait le sien, une pièce lui tombait dans la main, ou un morceau de pain, ou un fruit. Il mangeait, et son bienfaiteur fuyait en hâte, ému sans comprendre. Parfois, et avec nervosité, on lui parlait ou on parlait de lui. L'idiot entendait, mais les sons n'avaient pour lui aucun sens. Il vivait quelque part à l'intérieur. En lui, le lien ténu qui unit la conscience et l'univers était rompu. Non que l'idiot ait mauvaise vue, il savait distinguer entre sourire et rictus, mais la sympathie, tout comme l'ironie d'autrui, laissait froid cette créature qui jamais ne formait de sourire ni de rictus et qui donc ne pouvait comprendre les sentiments de son prochain, qu'il se montre enjoué ou furieux. Il connaissait la peur juste assez pour survivre, mais il était incapable de prévoir. Le bâton qui se levait, la pierre qui fendait l'air, le trouvait sans méfiance. Toutefois, dès qu'il était atteint, il réagissait, il prenait la fuite. Il filait dès le premier coup et ne s'arrêtait qu'une fois hors d'atteinte. C'est ainsi qu'il échappait aux orages, aux hommes, aux chiens, aux voitures, à la faim. Il n'avait pas de goût personnel. Le hasard l'avait placé dans une région sauvage où les lieux habités étaient rares, de sorte qu'il ne quittait guère la forêt. À 4 reprises, on l'avait mis en prison. Ça l'avait laissé indifférent. À sa sortie, il était pareil à lui-même. Une fois, un détenu l'avait battu. Une autre fois, et c'était pire, un gardien. Les 2 autres fois, il avait eu faim. Tant qu'on le nourrissait et qu'on le laissait tranquille, il restait. Quand venait l'heure de la fuite, il filait, confiant à son enveloppe extérieure le soin de sa liberté. Ce qu'elle contenait s'en moquait ou ne pouvait s'en charger. Alors l'idiot se retrouvait face à un gardien ou au directeur. Ses iris semblaient sur le point de se mettre à tourner comme des rouets. Les portes de la prison s'ouvraient, l'idiot partait, et son bienfaiteur courait faire autre chose, n'importe quoi, pour oublier le trouble qui s'emparait de lui. L'idiot était un animal purement et simplement. Parmi les hommes, il est dégradant de figurer au rang des bêtes. Mais l'idiot vivait rarement parmi les hommes, et dans les forêts, son état d'animal lui donnait de la grandeur. Il tuait comme une bête sans joie ni haine. Comme une bête encore, il mangeait ce qu'il pouvait, ce qu'il lui fallait, jamais davantage. Il dormait d'un bon sommeil léger d'animal, à l'opposé de celui de l'homme. Car un homme qui s'endort s'apprête à s'échapper dans le sommeil, alors qu'une bête s'apprête à s'échapper du sommeil. Il avait atteint une maturité animale qui ne lui permettait plus les jeux de chaton ou de chiot. Du coup, la joie et l'humour lui étaient interdits. Son spectre s'étendait de la satisfaction à la terreur. Il avait 25 ans. Comme le noyau dans le fruit, comme le jaune dans l'œuf, il transportait une chose, passive et réceptive, mais vivante en éveil. Si elle possédait des liens avec le tégument animal, elle les ignorait. Elle tirait sa substance de l'idiot, mais n'avait par ailleurs aucune conscience de lui. Il connaissait la faim moins la famine. Quand cette dernière le tenaillait, la chose en lui diminuait, rétrécissait, quoique sans le remarquer. Le jour où l'idiot mourrait, elle mourrait avec lui, faute de motivation à retarder cet événement ne serait-ce que d'une seconde. Elle était dépourvue de fonctions spécifiques. Une rate, un rein, une glande surrénale possède une fonction définie et un niveau optimum pour l'accomplir. Elle se contentait de recevoir et d'enregistrer, sans mots ni code, sans traduction, sans distorsion, sans conduit vers l'extérieur. Elle prenait tout et ne donnait rien. Le monde extérieur comportait, pour les sens spécialisés de l'idiot, un murmure, des messages. Ce qu'il portait en lui s'imprégnait de cette rumeur, l'absorbait peu à peu sans rien omettre, prenait ce qui lui était nécessaire et rejetait le reste par un processus intangible. L'idiot n'était pas au courant. La chose, sans mots.
Chaud, quand le mouillé vient un peu, mais pas assez, ni assez longtemps.
Tristement, jamais plus l'obscurité. Un sentiment de plaisir, un sentiment d'écrasement subtil et...
Enlève le rose, ce qui chatouille. Attends, attends. Tu peux retourner, oui, tu peux. Différent, mais presque aussi bon.
Sommeil.
Oui, c'est ça, c'est le...
Inquiétude.
Trop loin, reviens, reviens, re...
Une torsion, un arrêt soudain, et une voix de moins.
Tout file, de plus en plus vite, et m'emporte.
Réponse.
Non, non, rien ne file, c'est immobile, ça t'attire vers le bas dans sa direction.
Fureur.
Ils ne nous entendent pas, les imbéciles. Mais si, mais non, des pleurs, des bruits, voilà tout.
Il n'y avait pas de mots toutefois. Impression, dépression, dialogue, les radiations de la terreur, les tensions de la conscience, le mécontentement et le murmure. La rumeur transmettant le message de centaines, de milliers de voix. Mais aucune ne s'adressait à l'idiot. Il n'y avait rien qu'il concerne, rien qu'il puisse utiliser. Il n'avait aucune conscience de son oreille intérieure, car elle ne lui servait pas. C'était un triste spécimen d'homme, mais un homme quand même. Et ses voix étaient celles des enfants, les très jeunes enfants, qui n'avaient pas encore appris à cesser de vagir pour se faire entendre.
Des pleurs, des bruits,
voilà tout.